VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 15 mars 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Alberton.
Nous commençons par les titres.
Au Tchad, un hélicoptère de l'armée parti de N'Djamena pour Fayal-Arjo est porté disparu.
Au Cameroun, saisie de 2 tonnes d'écailles de pangolins et arrestation de 4 trafiquants.
Fin aujourd'hui à Nairobi, au Kenya, de la 4e assemblée de l'ONU pour l'environnement.
En Nouvelle-Zélande, des fusillades contre 2 mosquées de Christchurch ont fait plusieurs morts aujourd'hui.
Frappe de l'armée israélienne tôt ce matin contre des positions du Hamas et du djihad islamique à Gaza après des tirs de roquettes.
Ici à Washington, le Sénat, contrôlé par les Républicains, a infligé hier un camouflet au président Donald Trump en rejetant sa déclaration d'urgence nationale à la frontière avec le Mexique.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Tchad, des recherches étaient en cours hier pour retrouver un hélicoptère de l'armée parti mercredi de la capitale N'Djamena vers Fayal-Arjo dans le nord. Il n'est pas arrivé à destination, a-t-on appris de sources concordantes citées par l'AFP. Aucune précision n'a été donnée sur le nombre de personnes à bord. Depuis plusieurs mois, l'armée est déployée dans l'extrême nord du Tchad, dans le Tibesti, théâtre d'affrontements récurrents entre des orpailleurs et l'armée. Des hélicoptères, comme celui qui a été porté disparu, ont été utilisés dans ces affrontements, à Miski notamment.
4 trafiquants d'espèces animales protégées au Cameroun ont été arrêtés hier à Douala, alors qu'ils s'apprêtaient à vendre 2 tonnes d'écailles de pangolin, un petit fourmilier écailleux menacé d'extinction, ainsi que 200 défenses d'ivoire. Précision d'Irénée Herman Kungo.
C'est une énorme saisie. D'habitude, nous saisissons des dizaines, quelquefois des centaines de kilos d'écailles. Ici, on parle de plus de 2 tonnes. C'est réjoui le directeur adjoint de l'ONG Laga, Eric Kabata, avec qui les forces de l'ordre ont conjointement mené l'opération. Il précise que les personnes arrêtées font partie d'un réseau de trafiquants qui exportaient habituellement leurs produits vers le Nigeria. Selon lui, la valeur de cette saisie record est estimée à 150 millions de francs CFA. Les écailles de pangolin sont recherchés en Asie du Sud-Est pour leurs prétendues propriétés médicinales contre l'acné, le cancer et l'impuissance. Malgré l'interdiction de son commerce en 2016, l'animal peut encore s'acheter dans des échoppes de Hong Kong où ses écailles se vendent à prix d'or. 1 million de pangolins ont été abattus dans les forêts d'Afrique et d'Asie au cours des 10 dernières années.
C'est aujourd'hui que se termine à Nairobi, au Kenya, la 4e assemblée de l'ONU pour l'environnement. Elle a réuni plus de 4 700 officiels, dont des chefs d'État. Les participants se sont engagés à œuvrer ensemble pour trouver des solutions aux défis environnementaux, notamment en Afrique. Les précisions de John Lyndon.
Les pays africains doivent lutter contre le changement climatique avec un nouveau modèle économique basé sur les énergies propres, la protection des forêts et la technologie pour aider les agriculteurs, mais ils auront besoin de plus d'investissements et de recherches pour y parvenir, ont déclaré jeudi des dirigeants présents à ce rendez-vous. L'Afrique ne peut pas répéter les erreurs passées des pays industrialisés qui s'enrichissent à l'aide de l'énergie produite à partir de combustibles fossiles polluants tels que le pétrole et le charbon, souligné le président français. L'exemple du Kenya, qui tire déjà les 3/4 de son énergie de sources renouvelables, notamment solaires, géothermiques et éoliennes, a été évoqué. Lors de ce sommet, le 3e du genre, le président Uhuru Kenyatta a promis que son pays veillerait à ce que les forêts couvrent au moins 10% des terres d'ici 2022. Le continent ne produit que 1,5% de son électricité à partir de l'énergie solaire, contre 7% en Allemagne. La Banque mondiale prévoit de dépenser au moins 12 milliards de dollars en Afrique entre 2021 et 2025 pour soutenir des projets d'adaptation et de résilience, ont déclaré ses responsables.
L'analyse des boîtes noires du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines débute ce vendredi en France pour tenter de dévoiler le scénario de l'accident dans lequel 157 personnes sont mortes dimanche. C'est le bureau d'enquête et d'analyse près de Paris qui sera chargé de la lecture des cartes mémoire des enregistreurs de vol, a annoncé cette agence française réputée pour son expertise dans les enquêtes enquête délicate sur des accidents d'avion. L'agence où sont arrivées jeudi les boîtes noires a été choisie par les autorités éthiopiennes qui dirigent l'enquête sur l'accident. Nous reviendrons sur ce crash en seconde partie de cette édition.
En Algérie, de nouvelles manifestations contre le pouvoir ont été convoquées pour ce vendredi, à l'issue d'une semaine qui a vu le président Abdelaziz Bouteflika reporter les élections, proroger son mandat et proposer un plan de réforme aussitôt raillé. Étudiants et universitaires, puis enseignants et lycéens, ont déjà manifesté en nombre mardi et mercredi, à la suite des décisions de M. Bouteflika de renoncer à briguer un cinquième mandat, tout en reportant sine die l'élection présidentielle initialement prévue le 18 avril.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Nouvelle-Zélande, la police a annoncé vendredi l'arrestation de 4 personnes en relation avec les fusillades meurtrières contre 2 mosquées de Christchurch et avoir neutralisé un certain nombre d'engins explosifs artisanaux. 4 personnes sont en garde à vue, 3 hommes et une femme, dit le commissaire Mike Bush, précisant que l'armée avait désamorcé des engins explosifs retrouvés sur les véhicules des suspects et qui avaient été sécurisés. Le nombre de morts est significatif, a-t-il dit, sans autre précision.
L'armée israélienne a mené tôt vendredi des frappes militaires contre des positions des mouvements islamistes Hamas et Djihad islamique dans la bande de Gaza, et ce en représailles à des tirs de roquettes vers Israël, a-t-on appris de sources sécuritaires. Ces hostilités interviennent dans une période sensible où le cessez-le-feu observé de part et d'autre demeure fragile et où Israël est en pleine campagne électorale.
L'assaut de forces arabo-kurdes contre l'ultime réduit en Syrie du groupe État islamique a été de nouveau ralenti hier par la fuite de centaines de rescapés du bout de terre où sont accumulés les irréductibles de l'organisation djihadiste. Ce qui reste du califat autoproclamé en 2014 n'est plus qu'un campement de tentes au bord de l'Euphrate à Baghouz, aux confins orientaux de la Syrie, non loin de la frontière irakienne.
Et pendant ce temps, la conférence des donateurs pour la Syrie, organisée hier à Bruxelles, a permis d'engranger près de 7 milliards de dollars pour venir en aide aux réfugiés. Cependant, le déblocage des fonds pour la reconstruction a été conditionné à un processus de paix crédible. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Nous sommes ravis, côté ONU, merci de votre générosité, a déclaré le secrétaire général adjoint de l'organisation Mark Lowcock, rappelant que l'aide seule ne peut remédier à la crise syrienne. Les Nations Unies avaient chiffré les besoins financiers pour 2019 à 5,5 milliards de dollars pour assister environ 5,6 millions de Syriens réfugiés hors de leur pays. Pour les populations déplacées à l'intérieur de la Syrie, les besoins ont été évalués à 3,3 milliards de dollars. La plus importante contribution annoncée est venue de l'Allemagne avec 1,44 milliards d'euros. Les États-Unis se sont engagés pour 397 millions de dollars. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a insisté sur le fait que la Syrie doit rester en tête des priorités de la communauté internationale. Elle a averti que cet argent ne sera déboursé que si un processus de paix crédible commence à Genève sous les auspices des Nations Unies. La Belgique et plusieurs autres pays de l'Union européenne ont ajouté une autre condition, la lutte contre l'impunité des crimes commis en Syrie. Une partie des fonds doivent être utilisés pour la reconstruction du pays dévasté par 8 années de guerre.
Ici à Washington, le Sénat a voté hier par 59 voix contre 41 en faveur d'une résolution pour annuler la procédure d'urgence nationale décrétée par le président Donald Trump, procédure visant à débloquer des fonds nécessaires à la construction d'un mur à la frontière mexicaine. Des détails avec Jacques Aristide.
Il s'agit d'un sérieux revers pour le chef de la Maison-Blanche, des élus républicains s'étant joints aux démocrates pour approuver le texte. Donald Trump a promis d'opposer son veto. Le président a déclenché l'arme de l'urgence nationale il y a un mois après le refus du Congrès de lui octroyer les 5,7 milliards de dollars de budget qu'il réclamait pour construire son mur à la frontière mexicaine. Par cette procédure, le président américain s'est arrogé des prérogatives budgétaires normalement réservées réservé au Congrès. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a tenté en vain de raisonner ses troupes jusqu'au bout. Le président opère dans le cadre de la loi et la crise à notre frontière est bien trop réelle, a-t-il déclaré dans l'hémicycle. Le sénateur et ex-candidat à la présidentielle en 2012, Mitt Romney, a notamment décidé de voter avec les démocrates en faveur de la Constitution, dit-il. La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a approuvé cette même résolution le mois dernier.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Kalani.
Au Cameroun, l'électricien Ineo lance les travaux de renforcement du réseau de distribution dans la capitale Yaoundé pour 1,8 milliard de francs CFA. Ce programme porte sur un linéaire de 170 km en aérien et en sous-train et est aussi en cours à Douala, la capitale économique. Investir au Cameroun publie que les travaux consistent à remplacer les câbles de faible section de 34 mm² par des câbles de grande section de 148 mm² pour augmenter les capacités de transit. Il s'agit aussi de remplacer les poteaux en bois par les poteaux en béton. Tout ceci pour améliorer la qualité de service. Eni a trouvé un nouveau gisement de gaz naturel au large de l'Égypte, notamment dans le puits Nour 1 de la zone d'exploration Nour, à environ 50 km au nord de la péninsule du Sinaï. L'agence Ecofin indique que la firme italienne a dit que le puits n'a pas été testé, mais une acquisition de données intenses et précises a été effectuée sur place. Pour finir cette minute éco, la filiale béninoise de MTN écope d'une amende de 1,35 milliard de francs CFA de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin. La société est tenue de payer ce montant dans un délai de 60 jours. La tribune rapporte que cette sanction fait suite à une opération de contrôle qui a relevé plusieurs irrégularités, notamment le non-respect de certaines obligations contractuelles.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le conseil de la FIFA se réunit aujourd'hui à Miami, ici aux États-Unis.
Oui, la trentaine de membres du conseil se prononceront sur les conclusions de l'étude de faisabilité selon lesquelles un mondial à 48 équipes au Qatar en 2022 est possible si un ou des pays voisins accueillent des matchs. Le changement de format n'est pour le moment ratifié qu'à partir de l'édition 2026. Selon l'étude de faisabilité, une Coupe du Monde au Qatar avec 48 équipes au lieu de 32 générerait entre 300 et 400 millions de dollars de revenus supplémentaires. La décision finale, qui devrait à coup sûr entériner la décision de principe, reviendra au Congrès qui doit se réunir le 6 juin à Paris.
La vague des listes pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 se poursuit.
Oui, la liste du sélectionneur du Sili national guinéen, Paul Puit, a surpris plus d'un. Steve Elana, gardien de 38 ans qui a déjà porté les couleurs de la Martinique, a été convoqué pour affronter la Centrafrique. En revanche, pas de Naby Keïta. Le milieu de terrain blessé et qui n'a pas disputé le match de Ligue des Champions avec Liverpool le mercredi a été laissé à la disposition de son club. Deux joueurs du club local de Oroya font partie de la liste, Paye Camara et Boniface Abba, actuel meilleur buteur de Ligue 1 guinéenne. La Guinée a déjà son ticket pour la CAN 2019 entre les mains.
Des arbitres femmes à la CAN des moins de 17 ans.
Oui, des arbitres femmes devraient officier pour la première fois lors de la CAN des moins de 17 ans en Tanzanie du 14 au 28 avril. Cela donne aux femmes qui vont diriger des matchs l'opportunité de montrer toute l'étendue de leurs talents et d'emmagasiner l'expérience du plus haut niveau, d'après la CAF. Sur un total de 29 arbitres et arbitres assistants sélectionnés, la CAF a choisi 3 femmes, l'arbitre tanzanienne Jonesia Rukia Kabakama et les arbitres assistantes Marie Wanjuru Njorog du Kenya et Lidwin Rakoto Zafinuro du Madagascar.
Deux agents de foot brésiliens arrêtés pour trafic d'êtres humains.
Oui, ces agents sont soupçonnés d'avoir organisé l'immigration illégale d'une vingtaine de jeunes footballeurs. Ils ont été arrêtés au Portugal pour trafic d'êtres humains. Un club sportif de la ville de Nazaré a fait l'objet d'une perquisition et son président a été inculpé selon le service des étrangers et des frontières. Les arrestations effectuées ont mis fin à une enquête ouverte à la suite d'une opération de routine menée fin 2018 au cours de laquelle les inspecteurs du CEF avaient détecté une vingtaine de jeunes footballeurs en situation irrégulière. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Indiana et Oklahoma City 108 à 106. Orlando et Cleveland 120 à 91, Boston et Sacramento 126 à 120, Toronto et LA Lakers 111 à 98, Utah et Minnesota 120 à 100.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a gracié près de 700 prisonniers politiques et d'opinion, une mesure conforme à ses promesses électorales. Eddy Sango a joint à Kinshasa le président de l'ASADO, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Jean-Claude Katende.
À l'annonce de ces libérations, notre sentiment, c'est un sentiment de joie. Mais comme vous le savez, ce n'est pas une joie totale, parce qu'il y a une des figures emblématiques des prisonniers politiques en République démocratique du Congo, M. Djomin Dongala, qui n'est pas encore libéré. Nous attendons, comme l'avait annoncé le directeur de cabinet du président de la République, que le ministre de la Justice prenne un arrêté de libération conditionnelle pour que M. Djomin Dongala soit aussi libéré.
Certains auraient souhaité que ces mesures s'étendent à des gens comme Eddy Kapende, qui était impliqué dans le procès d'assassinat de l'ancien chef d'État, Laurent Désiré Kabila, mais il pense qu'il n'y est pas. Quelle est votre réaction?
Il y a plusieurs mesures qui ont été prises et qui ont concerné plusieurs personnes. Il est question maintenant que nous puissions avoir ces arrêtés à main pour que nous puissions les examiner et voir si effectivement M. Eddy Kapende et son groupe ne sont pas concernés. S'ils ne sont pas concernés, je voudrais vous dire que cela va être une préoccupation pour nous parce que nous savons que M. Eddy Kapende et son groupe sont des bénéficiaires de la loi d'amnistie de 2005 mais aussi de 2014. Et donc, nous allons continuer notre combat. Mais déjà, les mesures qui sont prises sont des bons signaux de la part du président de la République qui a mis au cœur de ses préoccupations les questions liées au respect des droits de l'homme, mais aussi de celles liées à une administration de justice qui soit vraiment humaine et qui soit juste.
Parmi ces promesses des campagnes, le président élu avait, je parle de Félix Tshisekedi, avait dit qu'il ferait tout pour fermer tous les cachots ou tous les lieux de détention non officiels.
Il y a encore des personnes qui sont en détention, notamment à la DENIAP. C'est pour dire que la mesure a été dans une grande portée mise en œuvre. Mais il y a encore des résistances à gauche et à droite et nous continuons à faire les monitoring pour que tous ces cachots clandestins ou parallèles, je dirais, soient effectivement fermés pour que les prisonniers soient affectés à la prison de Makala ou à la prison d'Ndolo, selon qu'on est civil ou militaire. Cela donne la possibilité d'une procédure transparente.
C'était Jean-Claude Katende, président de l'ASADO, l'Association africaine de défense des droits de l'homme.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
De l'autre côté du fleuve, au Congo-Brazzaville, le programme alimentaire mondial appuie le retour des populations dans le pôle à travers des activités de relance agropastorale. La directrice régionale du PAM, Lola Castro, qui s'est rendue dans ces régions affectées par l'insécurité alimentaire, encourage les communautés à beaucoup produire. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Le PAM est l'une des agences de l'ONU qui accompagne actuellement les populations du Pôle à se relever après le conflit armé. La réhabilitation de la piste agricole Missé-Missé-Moukoto soulage déjà les populations qui évacuent leurs produits agricoles vers les centres de consommation. À Mindouli, le PAM mobilise les jeunes à relancer les activités piscicoles. L'espoir renaît ici après de longs mois d'incertitude.
Nous on a dit merci, ok, nous allons travailler avec le PAM plus l'APDRA. On va curer tous les étangs, reformer les digues et la nouvelle méthode, il faut faire des pêcheries. Ça, c'est un étang de production. On doit avoir 7000 à 8000 poissons. Nous les vendons seulement ici, là.
Maintenant, là, vraiment, depuis que le vieux maman a entendu qu'on nous aide maintenant, là, donc ils sont contents.
Nous avons la volonté de travailler, parce que sans le travail, tu ne peux pas gagner quelque chose. Parce qu'il y a la morale que le chef nous a proposé que non, on va vous donner des bottes, des imperméables. Là, on a reçu des pelles, des bottes.
La directrice régionale du PAM, Lola Castro, qui a visité ces projets de réhabilitation du poule, se dit satisfaite.
Pour moi, comme directrice régionale de PAM, c'est très intéressant de venir à Poule et être dans ces régions. On a travaillé avec les communautés locales pour voir que les gens ils peuvent revenir avoir de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire, c'est pour les gens de commencer à vraiment produire encore une fois et achever des produits qui vont aller au marché et développer la région.
Dans la Bouenza, le département voisin, le PAM soutient les cantines scolaires dont l'impact sur les études des élèves n'est plus à démontrer. Michel Combo, directeur d'une école primaire à Madingo.
Depuis qu'ils ont la cantine, les enfants ne fuient plus les cours. Donc même ceux qui sont malades forcent quand même de venir. Nous avons souvent constaté dans les sacs des enfants, ils oublient même l'ardoise, mais l'assiette est là.
Annick Goma, directrice d'école à Madingo Gare.
Ça augmente le taux de fréquentation. Il y a moins d'abandon à l'école. Pourquoi ? Parce que je constate souvent quand les enfants sont malades ici, on demande aux enfants de repartir à la maison, ils refusent. Ils attendent que la nutrition. Donc vraiment, je félicite le projet PAM.
Le PAM veut aider les populations à beaucoup produire pour assurer la sécurité alimentaire dans plusieurs régions du pays. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Le docteur Diéné Keïta, ministre guinéen de la coopération et de l'intégration africaine, était dans nos murs hier, ici à Washington, à l'occasion d'un séjour sur invitation de la présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, Maria Fernanda Espinosa, pour assister à un panel composé de femmes dirigeantes. Au micro de Nathalie Barge, Madame Keïta fait un bref résumé de cette rencontre, avant d'expliquer comment elle recrute sur le principe de la parité au sein de son ministère.
Quand vous voyez ces femmes à ce niveau de responsabilité, c'est absolument impressionnant. Parce que ce qu'on retient, c'est le combat quotidien de n'importe quelle femme pour arriver à ce niveau de responsabilité. La chance d'avoir étudié d'abord quand on est africaine, d'avoir été à l'école, et ensuite de travailler, de se battre pour améliorer sa propre condition de vie et de celle autour de soi jusqu'à entrer en politique. Je crois que c'est ça, c'est la même histoire pour toutes avec des variantes différentes.
Est-ce que vous pouvez nous retracer brièvement votre parcours ? Comment êtes-vous arrivée ici, vous, en Guinée ?
Oui, avec grand plaisir. Moi, j'ai eu le grand privilège d'entrer aux Nations Unies sur concours très très jeune, à 25 ans. Donc j'ai passé 29 ans de ma vie à faire du travail humanitaire sur le terrain. J'ai travaillé dans plus de 12 pays au monde, dans des endroits extraordinaires, en RDC, au Burundi, en Haïti, un peu partout, et qui m'a appris à savoir ce que c'est que le bien-être de la population, ce que les femmes et les enfants et les hommes endurent tous les jours. Et le jour où j'ai eu le privilège que l'on me propose d'entrer au gouvernement, je me suis dit, c'est l'occasion pour moi d'aller pratiquer ce que j'ai prêché et pratiqué pour le reste de la planète et de le faire pour les miens.
Vous avez hésité ou vous vous êtes dit d'emblée, j'y vais ?
J'aurais pu hésiter, mais tout le monde n'est pas appelé. Comme on dit, il y a peu d'appelés, c'est pas offert à tout le monde. Ça ne se refuse pas. J'ai pas hésité un seul instant.
Est-ce que vous appréciez ce que vous faites ?
J'adore ce que je fais. La chance que j'ai eue, c'est véritablement de me mettre dans la fonction miroir de ce que je faisais auparavant sur le terrain auprès du système des Nations Unies. Je suis dans un métier que je comprends, que je connais et pour lequel je peux vraiment faire la différence. J'apprécie, j'adore ce que je fais au quotidien, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, parce que sinon on serait dans un conte de fées. Mais vous ne pouvez pas savoir l'effort et le privilège qu'on a tous les jours d'avoir une petite victoire de gagner. C'est juste remarquable.
Vous êtes plusieurs femmes dans le gouvernement actuellement ?
Absolument. Nous sommes dans le gouvernement 4 femmes ministres.
Sur combien ? La parité,
la grosse question. Sur 30.
Oula. Non, pas de oula. Parce qu'au sein de nos ministères, mm-hmm. et même des ministères masculins, véritablement, chacun d'entre nous avons fait l'effort maximum pour recruter D'accord. plus de femmes.
Donc vous avez cette politique-là au sein même de votre ministère.
Absolument.
Alors là, vous avez un système de parité au sein même de votre ministère?
Oui. Bon, donc il y a des cadres qui sont là que vous n'allez pas enlever. Mais parmi tous les nouveaux cadres qu'on a amenés, effectivement, ça a été fait de manière paritaire. Et paritaire et en tenant compte aussi de la jeunesse. Je suis très très fière de mon cabinet où j'ai mis des jeunes gens et des jeunes femmes qui sont très jeunes. J'en ai même moins de 30 ans.
C'était le docteur Diéné Keïta, ministre guinéenne de la coopération et de l'intégration africaine.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Retour sur la décision de l'administration Trump de clouer au sol tous les Boeing 737 MAX 8 et 9 ici aux États-Unis. En prenant cette décision, Washington a fini par céder à la pression en se ralliant au consensus international sur ce nouvel avion du constructeur américain après deux accidents tragiques en moins de 5 mois. Selon la FAA, le régulateur aérien américain, la décision est justifiée par de nouvelles données satellitaires fournies par le Canada et qui montrent que la trajectoire de l'avion d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche présente des similitudes avec celle de la compagnie indonésienne Lion Air, accidentée fin octobre. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Bertrand Wilmer, directeur du cabinet d'aéronautique ICAR, ancien pilote d'essai, président de la Compagnie nationale des experts de justice aéronautique et spatiale français.
C'est lié à la pression, c'est exactement ça. C'est la première fois dans l'histoire de l'aéronautique mondiale. C'est une situation inédite où s'il y a un phénomène qu'en France on connaît bien qui s'appelle le phénomène gilet jaune, il n'y a que c'est la base qui force la décision au sommet. Tout le monde aurait fini par ne plus accepter le 737 sauf les États-Unis. Et les États-Unis sans passagers et avec des syndicats de pilotes qui voulaient plus entendre parler. Donc c'est une situation complètement ubuesque où la seule structure qui souhaitait laisser l'appareil en vol est justement celle qui doit vérifier ses navigabilités et c'est là où ça a pêché.
Pour de nombreux médias, cette décision tardive décrédibilise le régulateur aérien américain, la FAA. Qu'en pensez-vous?
Dans cet appareil, il y a 3 problèmes. Il y a un défaut de conception, il y a un défaut de certification et il y a un défaut de procédure. Le défaut de conception, Boeing en fait l'aveu, puisque la FAA a imposé 3 modifications. Là, on ne parle pas de vérification, on parle de modification en profondeur. C'est un travail titanesque. Donc, le fait que la FAA demande à Boeing de faire des modifications sur un appareil neuf, alors qu'il vient d'être certifié, c'est un constat d'échec de leur service. Et deuxième point, c'est que la FAA dit oui, le deuxième vol présente des similitudes avec le premier, donc il faut arrêter l'appareil de vol. J'en conclus que pour arrêter l'appareil de vol, il faut avoir 2 échecs. Un seul ne suffit pas. Qu'est-ce qu'ils ont appris depuis l'Éthiopienne? Rien. Tous les éléments qu'ils ont, c'est le rapport préliminaire du vol du Lyonnais.
Justement, les boîtes noires n'ont pas encore été décryptées. D'ailleurs, elles viennent d'être réceptionnées en France. Et pour l'heure, il n'y a aucune preuve liant le crash en Éthiopie à celui au large de l'Indonésie en octobre dernier, n'est-ce pas?
Preuve, je ne suis pas. Il y a des indices. Le premier indice, c'est que c'est des appareils qui ont quasiment les mêmes numéros de série. Ils sont tous les deux tout neufs. Le deuxième indice, c'est que les pilotes ont demandé à chaque fois à faire demi-tour. Le troisième indice, c'est qu'on sait, par la boîte noire du premier et par un logiciel que tout le monde connaît qui s'appelle Flight Radar, qu'il y a eu des oscillations d'altitude pendant le décollage, ce qui est absolument aberrant. Quand un avion se met en montée, il passe pas son temps à monter, à descendre, à monter, à descendre, à monter, à descendre pendant qu'il monte. Et à la fin, on voit très bien qu'il y a une mise en piqué. Donc ça, c'est factuel.
La crise chez Boeing va-t-elle chambouler les rapports de force dans le ciel mondial?
Non. Non, il y a 2 gros avionneurs, il y en a que 2. La Russie et la Chine sont 15 ans, voire 20 ans derrière. Non, les 2 constructeurs, c'est des constructeurs sérieux. C'est des constructeurs de grande qualité. Boeing est une superbe machine, 150 000 employés, 1200 milliards de carnet de commandes, près de 8 000 avions. Je pense que ça ne va pas affecter Boeing. Mais par contre, ça va affecter, évidemment, il y aura un trou de terre pour cette structure. Il y aura des reports de commandes, il y aura des pénalités, il y aura des transformations de commandes de 737 MAX en 737 NG, ce qui est déjà fait Norvégienne d'ailleurs, pour pouvoir voler, parce que les compagnies vont perdre des clients. Là. Mais que Boeing soit menacé, absolument pas. Par contre, la FAA... Oui, la FAA est décrédibilisée. La cause de l'accident, c'est un problème de certification. Que les industriels se trompent dans la conception d'un système, ça peut arriver. Mais que l'organisme de certification passe à côté, c'est pas possible, parce que leur rôle, c'est justement d'éviter ça.
C'était l'ancien pilote d'essai Bertrand Wilmer. directeur du cabinet d'aéronautique ICAR, joint à Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.